Le monde en partage. Radio Centre-Ville. Thibaut Temmerman.
Bonjour et bienvenue pour cette première émission de l'automne. J'espère en tout cas que vous avez pu profiter de la douceur des derniers jours de l'été. Ça faisait quelque temps que je voulais vous proposer une émission sur l'eau dans notre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité internationale, étant donné que l'ONU a déclaré l'année 2013 comme celle de la coopération dans le domaine de l'eau. Aussi, je suis heureux de pouvoir consacrer cette émission sur ce sujet cette semaine. Mais une fois n'est pas coutume, pour introduire le sujet, je vais vous partager une anecdote personnelle. C'était en mars 2008. Je revenais d'une première expérience professionnelle au Québec où l'hiver, vous en souvenez peut-être, avait été assez rude, avec des records de chute de neige. Je devais cette fois me rendre à Chypre pour réaliser un autre stage dans le cadre de mes études. Pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas où se trouve cette île, nous sommes à environ 100 km au sud de la Turquie et 550 km à l'ouest d'Israël. Je vous laisse donc imaginer l'amplitude thermique que j'ai vécue. Un chypriote m'accueille à l'aéroport et me conduit en voiture depuis Larnaca, une ville située sur la côte sud, jusque Nicosie, la capitale située au tiers nord de l'île. Les paysages ont de magnifiques teintes ocre, mais quand j'en fais la remarque au chauffeur, celui-ci me répond qu'habituellement, les paysages ne sont pas aussi secs, mais il n'a pas plu sur l'île depuis près de 2 ans. Arrive le premier jour de mon stage, et lorsque je me rends à la salle de bain, impossible d'avoir de l'eau. La distribution avait été coupée. Vous pouvez aisément comprendre mon malaise devant l'impossibilité pour moi de me laver lors de mon premier jour de stage, qui plus est dans les milieux diplomatiques. Sauf que je ne vous parle pas d'un pays du tiers-monde. Chypre était l'un des pays les plus développés parmi ceux qui sont entrés dans l'Union européenne en 2004, même s'il a depuis connu quelques difficultés économiques et financières. Seulement, je peux vous assurer qu'après une telle expérience, puisque cela m'est arrivé plusieurs fois durant mon séjour, y compris lors de l'été où les températures dépassaient les 40 degrés Celsius, sans le facteur humidex, on en vient vraiment à réfléchir à la question de l'utilisation de l'eau et du gâchis que l'on en fait dans les pays développés lorsque celle-ci vient à manquer pour un geste aussi simple que celui de se laver. Je vous passe les détails sur les péripéties logistiques et géopolitiques afin que Chypre puisse recevoir de l'eau importée depuis la Grèce et non de Turquie, pourtant plus proche, avec laquelle elle est en conflit depuis 1974, et ceci afin d'assurer ses nombreux besoins en eau durant l'été, agriculture, industrie, tourisme. Bref, à la lumière de cet exemple, vous percevez bien l'enjeu que nous allons aborder aujourd'hui, celui d'une plus juste répartition de l'eau, laquelle ne concerne pas uniquement les pays les moins développés. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne l'un des meilleurs spécialistes de cette question dans le monde francophone. Frédéric Lasserre, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur agrégé au département de géographie de l'Université de Laval. Alors, il y aurait 36 manières d'aborder la question de l'eau et de sa protection, mais aujourd'hui, voyons en quoi, pour reprendre un article, le titre d'un article que vous avez publié dans la revue Mélange de la Casa de Velázquez, en quoi le partage de l'eau dans le monde est un enjeu majeur du 21e siècle. La rareté d'un bien provoque toujours des tensions sur le partage de celui-ci, mais fondamentalement, dans le cas de l'eau, s'agit-il d'une question de rareté ou de mauvaise répartition de celle-ci ?
En fait, les deux, là, sachant qu'effectivement l'eau est inégalement répartie à la surface de la Terre, alors mauvaise répartition, c'est un peu abusif dans la mesure où on porte des jugements sur la répartition que la nature fait de la ressource en eau. Bon, c'est vrai qu'il y a des régions qui sont plus abondamment dotées que d'autres. On pense par exemple à l'Amazonie très humide versus les espaces désertiques du Sahara par exemple. Donc on a bien conscience qu'il y a des contrastes majeurs dans la répartition de la ressource. Et qu'il y a aussi des populations qui se trouvent parfois dans des zones où la ressource est relativement peu abondante, d'où l'idée qu'effectivement cette ressource soit mal répartie, mais je le répète, c'est un abus de langage. Il y a effectivement, on est confronté à cette répartition naturelle avec laquelle il faut composer pour satisfaire les besoins des différentes sociétés. Maintenant, s'il est vrai qu'on a affaire effectivement à des contrastes dans la répartition de la ressource, des contrastes naturels, il y a aussi différentes façons d'aborder la gestion de la ressource. C'est là qu'on peut effectivement parler d'une gestion de la ressource qui est plus ou moins efficace, dans la mesure où les sociétés s'adaptent avec plus ou moins de bonheur à une rareté qui est relative, dans la mesure où il y a toujours de l'eau qui est disponible pour toutes les sociétés. Ça dépend, la tension qui existe sur la ressource dépend des utilisations qui sont développées. Je peux prendre un exemple. Dans l'ouest des États-Unis, dans le bassin du Colorado, on a un climat qui est semi-aride, donc il y a effectivement une contrainte à la base liée à la dotation naturelle en eau. Mais il y a aussi des usages qui se sont développés, en particulier des usages agricoles, où on a choisi de mobiliser à grande échelle la ressource disponible pour développer une agriculture irriguée. Et c'est cette utilisation qui est à la source des tensions que l'on connaît à l'heure actuelle dans l'ouest des États-Unis. C'est pas qu'il y a un manque criant d'eau, c'est simplement qu'on a développé des besoins qui, à l'heure actuelle, pour continuer à être satisfaits, provoquent des tensions environnementales et des tensions avec les autres composantes de la demande sociale.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de tensions dans le domaine de la répartition de l'eau, il y a bien sûr des conflits entre pays, et on va aborder cette question dans la deuxième partie de l'émission, mais cela peut exister également à l'intérieur d'un même pays, voire d'une région géographique. Je pense par exemple au bassin du Danube, lorsqu'il a été pollué en amont, cela a concerné tous les pays en aval. Et donc il y a bien cette tension sur l'usage de l'eau que l'on mesure dans la société, entre d'une part les besoins de l'agriculture, de l'industrie, ou les besoins des particuliers. Donc ce serait ça finalement l'enjeu de la répartition de l'eau au 21e siècle, cet enjeu que l'on mesure actuellement.
Tout à fait, on pense spontanément, quand on parle de tension sur la ressource, à des litiges entre des gouvernements, entre des États. Tout cela est vrai, mais il ne faut pas que ça occulte le fait qu'à l'intérieur des sociétés aussi, à l'intérieur des États, il y a aussi des tensions entre les différents types d'usagers. Vous avez bien souligné, par exemple, les tensions qui peuvent exister entre les agriculteurs, les îles, l'utilisation pour les loisirs que l'on peut faire aussi. Tous ces usagers, évidemment, souhaitent disposer de la ressource la plus abondante possible, la meilleure qualité possible, parce qu'il y a la quantité et la qualité. Et parfois, les différents usages deviennent conflictuels, dans la mesure où il n'y a pas suffisamment d'eau pour satisfaire à la fois les besoins en irrigation, pour alimenter les îles, pour garder suffisamment d'eau dans les réservoirs pour turbiner de l'hydroélectricité. Et ça suscite des différends, des disputes, voire des conflits assez importants. Et à ce moment-là, c'est au pouvoir public, évidemment, d'essayer d'arbitrer, d'amener les différentes composantes de la société à essayer de trouver des solutions. Ce n'est pas forcément aisé à obtenir.
Est-ce qu'il existe des instruments juridiques, par exemple dans certains pays, qui ont permis de décider une plus juste répartition de ces enjeux-là, ou alors cela se passe vraiment de manière politique? C'est vraiment une question politique plus que juridique?
C'est les deux, sachant que trouver une façon de partager la ressource passe forcément par un arbitrage politique, dans la mesure où il n'y a pas de clé de répartition qui soit universelle. Il n'y a aucune façon de pouvoir prétendre que l'agriculture devrait avoir 60% de la ressource en eau, les villes 20% et l'industrie 20% par exemple. Dans chaque société, on va essayer de trouver un compromis qui sera valable à l'instant où on le trouve, donc qui sera amené lui-même à évoluer, sachant que le plus difficile consiste à trouver ce compromis. Aux États-Unis à l'heure actuelle, surtout dans l'Ouest que j'évoquais tout à l'heure, l'agriculture est responsable de 80% de la consommation. Donc c'est énorme. On accepte que l'agriculture consomme autant parce que on a choisi d'investir beaucoup pour développer cette agriculture irriguée. Bon, c'est un choix de société. Maintenant, évidemment, le compromis consiste à dire, est-ce que les agriculteurs peuvent renoncer à une petite partie de cette dotation ou non? Dans d'autres États, le principal enjeu n'est pas la quantité qui est dévolue à l'agriculture, parce qu'une bonne partie de l'agriculture se fait de façon pluviale, mais c'est de savoir si la qualité, par exemple, est optimale, si les îles sont bien approvisionnées. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fonction de chaque société, les enjeux de la gestion de l'eau vont être différents, et donc c'est difficile de trouver des règles juridiques a priori. Le droit ne peut constituer qu'un outil pour essayer d'aboutir à des solutions qui fondamentalement sont politiques.
Vous parliez des États-Unis, j'ai entendu un reportage assez étonnant sur la culture illégale du point de vue fédéral du cannabis, ou qui provoquait justement vraiment un empoisonnement, si l'on peut dire, une détérioration de la qualité de l'eau et des sols dans le nord de la Californie. Donc c'est réellement un enjeu de société. Mais pour en revenir à ces instruments juridiques, est-ce que, puisque l'ONU a déclaré cette année 2013 année de la coopération dans le domaine de l'eau, est-ce qu'il existe des instruments juridiques internationaux qui cadrent un petit peu la répartition ou la coopération dans le domaine de l'eau?
Alors, il existe plusieurs outils régionaux, mais dans le cadre des Nations Unies, donc à l'échelle internationale, il y a ce qu'on appelle la Convention de New York sur les usages de l'eau à des fins autres que la navigation, qui est une convention très générale pour essayer de donner aux États un outil d'une base de négociation. Cette convention, elle mérite d'exister, donc elle donne un cadre général pour essayer de trouver des compromis politiques. Elle a l'inconvénient fondamental de ne pas être encore entrée en vigueur puisqu'il faut qu'il y ait 35 pays qui la ratifient. Or, depuis 1997, depuis qu'elle a été signée à New York, il n'y a toujours pas eu 35 États qui la ratifient. Ça peut sembler étonnant, ça souligne justement à quel point l'eau, le partage de la ressource en eau dans des bassins internationaux est un enjeu très très politique. Et quand on regarde un petit peu le contenu de la Convention, on peut mieux comprendre pourquoi beaucoup d'États hésitent un petit peu à ratifier la Convention. Celle-ci dit en substance que pour partager la ressource en eau dans un bassin versant, il faut tenir compte de deux éléments. D'abord, le partage équitable, autrement dit, on doit effectivement partager la ressource de manière juste entre tous les États, toutes les sociétés qui coexistent sur un bassin versant, et on doit le faire de manière à ne pas causer de dommages significatifs aux économies qui utilisent déjà la ressource. Alors évidemment, prenons par exemple le bassin du Nil, l'Égypte dit, vous voyez, c'est très important de ne pas causer de dommages significatifs. Donc si j'accepte que les États en amont, j'aimerais bien pouvoir utiliser un peu plus les eaux du Nil, si j'accepte que les États en amont augmentent leur dotation, leur consommation, forcément, moi, j'aurai moins d'eau, donc je vais avoir des dommages significatifs à mon économie. Les États d'amont, l'Éthiopie en particulier, disent, oui, c'est vrai, il faut tenir compte de l'adaptation de l'économie égyptienne à cette nouvelle donne, mais il y a le principe d'équité. Le principe d'équité qui dit qu'on doit faire un partage juste de la ressource sur l'ensemble du bassin versant. Et donc, évidemment, chacun voit l'argument qui lui est le plus favorable, d'une part, et d'autre part, surtout, c'est là la difficulté, cette convention, elle limite forcément un peu la souveraineté des États sur leur territoire, puisqu'elle les oblige vraiment à partager une ressource que, jusqu'à tout récemment, les États considéraient comme relevant de la souveraineté nationale. Chacun fait ce qu'il veut avec la ressource en eau. Là, la Convention dit précisément non. Avec la ressource en eau, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est obligé de tenir compte du fait que l'eau coule. Il faut tenir compte des besoins des États, de l'ensemble des États sur un bassin versant.
Du Nil et de bien d'autres zones où il existe des tensions dans le domaine de la répartition de l'eau, il en sera question dans la deuxième partie de l'émission que nous allons entamer après une première pause musicale de circonstance. Et puisque nous sommes en automne et qu'il est question de l'eau, allons voir comment on célèbre la mousson automnale sous d'autres latitudes. On écoute Aguas de Março, du père de la bossa nova, João Gilberto.
Sozinho, um caco de vidro é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, nó da madeira, caingá, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, pombo da ribanceira, é o mistério profundo, queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira. Nas águas de março é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é uma estradeira. Passarinho na mão, pedra da tiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. Um regato, uma fonte, um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. Do rosto desgosto é um pouco sozinho.
a stick, a stone. It's the end of the road. It's the rest of us done. It's a little alone. It's a sliver of glass. It is life. It's the sun. It is night. It is death. It's a trap. It's a gun. The oak when it blooms. The fox and the brush. The knot in the wood. The song of a thrush. The wood of the wing. The cliff of fall. A scratch, a lump. It is nothing at all. It's the wind blowing free. It's the end of the slope. It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of the strain, it's the joy in your heart. The foot, the ground, the flesh and the bone. The beat of the road, a slingshot stone. A fish, a flash, a silvery glow. A fight, a bet, the range of the bow. The bed of the well, the end of the line. The dismay in the face, it's a loss, it's a find. A spear, a spike, a point, a nail. A drip, a drop, the end of the deal. A truckload of bricks in the soft morning light. The shot of a gun in the dead of the night. A mile, a must, a trust, a bump. It's a girl, it's a rhyme, it's a goat, it's the mumps. The plan of the house, the body in bed. And the car that got stuck, it's the mud, it's the mud. A float, a drift, a flight, a wing, a hawk, a quail. The promise of spring and the riverbank talks of the waters of March. It's the promise of life, it's the joy in your heart.
São as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. O resto de toco um pouco sozinho. O caco de vidro é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. São as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no teu coração.
C'était Aguas de Março de Georges Berthoud. J'ai choisi de vous diffuser l'original, mais sachez qu'elle existe en de nombreuses versions, notamment en italien, en espagnol, en anglais et même en hébreu. Et c'est Georges Moustaki qui l'a chanté en français. Et mes amis de Viva Nova, que vous entendez chaque semaine au générique de cette émission, proposent également une version multilingue très jazz et vraiment très agréable. Vous êtes toujours à l'écoute du 5FM et du Monde en Partage. Nous évoquons la question de l'eau en géopolitique. Et Frédéric Lasserre, professeur agrégé au département de géographie de l'université de Laval, est avec nous pour nous en parler. Alors, dans la première partie de l'émission, on a commencé à évoquer quelques zones géographiques où il existait des tensions au niveau de l'eau. On a parlé de certaines régions des États-Unis, on a parlé du bassin du Nil. Il y a une zone que je voulais aborder avec vous, c'est celle du Proche-Orient. Parce que derrière la question du conflit israélo-palestinien et le conflit des terres, il y a également un conflit sur l'eau. Est-ce que vous pourriez développer avec nous quels sont les ressorts de ce conflit en matière d'eau ?
Tout à fait. Alors, le conflit israélo-palestinien, israélo-arabe revient souvent dans la littérature sur les conflits parce qu'effectivement, c'est un des enjeux majeurs avec la question des territoires, du statut de Jérusalem, etc. C'est un des enjeux majeurs des négociations de paix ou en tout cas des difficultés d'obtenir, de faire aboutir des négociations. Il y a d'abord eu un conflit entre Israël et ses voisins arabes au sujet du partage des eaux du bassin du Jourdain. Il y a peu d'eau dans la région, c'est sûr que c'est un climat qui est très très aride. Il y a quand même quelques rivières, quelques petits fleuves dans le Jourdain, et très vite, donc à la création d'Israël, s'est posé la question de savoir comment on allait partager la ressource. Il y a eu des négociations, c'est important de le souligner, qui ont abouti au niveau technique entre les délégations israéliennes, syriennes, jordaniennes et libanaises. Il y avait eu un accord de partage qui avait été conclu sous l'égide d'un négociateur américain. C'est au niveau politique que, de part et d'autre, on n'a pas voulu paraffer cet accord. Donc il y a toujours des différends fondamentaux qui opposent Israël à ses voisins pour le partage des eaux du Jourdain. Il n'y a pas d'accord qui permette de régir ces usages. Il y a aussi un conflit à l'intérieur d'Israël et des territoires occupés entre Israël et les Palestiniens, puisque, évidemment, il faut répartir la ressource qui se trouve sur le territoire, on va dire, régi par Israël, que ce soit Israël propre et les territoires occupés. Et là se pose justement la question de savoir quel est le volume qui est attribué aux Palestiniens, en particulier dans les territoires occupés. Et là, il se trouve que Israël utilise les ressources qui se trouvent aussi en Cisjordanie, les eaux de surface, et surtout les eaux souterraines, les eaux des aquifères. La compagnie nationale israélienne, Mekorot, pompe d'importants volumes des eaux souterraines en territoire palestinien, donc en territoire occupé, qui est un petit peu contestable au regard du droit international. Normalement, la Convention de Genève dit qu'on n'a pas le droit d'exploiter des ressources naturelles dans un territoire occupé. Et ça pose aussi vraiment la question d'une certaine forme d'injustice, dans la mesure où les colons israéliens qui sont implantés en territoire cisjordanien et Israël utilisent donc des volumes d'eau qui sont convoités par les Palestiniens. Les Palestiniens aimeraient bien augmenter leur usage de la ressource en eau, ce qui leur est interdit par l'occupant israélien. Alors, je ne suis pas en train de dire que la gestion de l'eau serait plus efficace par les Palestiniens. Ça, c'est une autre question. Mais ce que les Palestiniens mettent de l'avant, c'est que l'occupant israélien utilise une ressource sur un territoire qu'il occupe et en prive la jouissance aux Palestiniens. Donc, il y a aussi vraiment ce conflit qui nuit, entre autres, à la reprise des négociations.
Une autre zone dont je voulais parler avec vous, c'est et qui est très illustrative justement de cette difficulté de la question du partage de l'eau entre l'usage agricole et l'usage domestique, c'est l'Afrique du Nord-Est, des pays comme par exemple le Kenya. Le Kenya est un pays qui produit des fleurs, qui utilise l'eau pour produire des fleurs, alors que alentour des personnes vont manquer d'eau.
Ah, ça, c'est tout le dilemme de l'utilisation à des fins économiques de la ressource en eau. Quand je disais que il n'y a pas de solution a priori au partage de l'eau et que tout doit être, c'est essentiellement une question politique, ça, c'en est un bon exemple. On peut utiliser la ressource en eau pour l'attribuer à une production agricole locale, dans l'espoir que les paysans vont pouvoir en vivre, voire s'enrichir, et que la production va permettre une certaine autosuffisance alimentaire. Il y a un autre raisonnement économique qui se tient aussi, c'est qu'on peut utiliser l'eau pour des cultures d'exportation, lesquelles vont créer de l'emploi et vont permettre de dégager, via l'exportation, des revenus sur les marchés internationaux qui vont permettre de faire vivre les entreprises qui produisent et surtout de dégager des excédents pour acheter des produits que l'on souhaite importer. Donc dans les deux cas, il y a une rationalité économique. La question qui se pose, c'est est-ce que en choisissant l'une ou l'autre de ces options de manière un peu trop exclusive, est-ce qu'on nuit au développement ou pas? Alors dans le cas du Kenya, effectivement, il y a des récriminations de part et d'autre. Il y a des agriculteurs qui disent « moi j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'eau, j'aimerais bien que l'État éventuellement investisse dans le captage et la meilleure distribution de la ressource en eau ». Et puis les entreprises agricoles qui produisent les fleurs disent « oui, mais nous aussi on crée de l'emploi, nous aussi on crée de la richesse pour l'économie, pour la société kenyane, donc nous aussi on peut utiliser la ressource ». C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une question sociale et politique pour laquelle il n'y a pas de réponse a priori. C'est vraiment chaque société qui se détermine, sachant qu'il ne faut pas effectivement qu'il y ait d'excès dans les choix économiques que l'on va prendre. Il ne faut pas que la culture des fleurs pour l'exportation prenne tellement de place qu'elle va finir par nuire au secteur vivrier local.
Et nous n'aurons finalement pas le temps d'évoquer la question de la mer d'Aral où la culture du coton, cette fois, a littéralement asséché cette mer en Asie. Mais je vous remercie beaucoup, Frédéric Lasserre, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir apporté votre éclairage vraiment très pertinent sur cette question.
Merci à vous.
On aimerait en savoir davantage et pour cela, j'inviterai nos auditeurs à consulter notre site internet lemondeenpartage.wordpress.com où vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires. Le Monde en Partage, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle enfin que cette émission est réécoutable en ligne ou en balado-diffusion. C'était Thibaut Temmermann à la réalisation. Merci encore à notre invité de ce jour, Frédéric Lasserre. Vous retrouverez tout de suite le magazine Centre-Ville. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne semaine sur Radio Centre-Ville. On se quitte avec un extrait de la chanson « Humain à l'eau » avec l'artiste belge Paul Van Haver, alias Stromae. Personnellement, les musiques urbaines ne sont pas celles que je préfère, mais je dois reconnaître tout le talent de Stromae à mettre sa poésie sur des rythmes entraînants.
Moi humain, pas vous. Primaire et pas vous. Si évoluer c'est ça, moi j'évolue pas pour un sou. Moi parler de glacier, si couler, moi fâché. Je saurai où te chercher quand comme moi tu seras perché. Mais oui, oui, retiens-moi bien. Persigne tout comme les tiens. Le même trou qu'à la couche d'ozone, je te le ferai. Allez, tu peignes mes vols, vol, voyage. Fais-les tes reportages, mes potes collent. Crache loin dans votre bol de potage, dans votre monde de Gotha. Moi, je n'en voulais pas. Évidemment que tu crois, mais on se tait quand on ne sait pas. Ta bouche, trop bêta, écoute, la nature est là. Ne vous étonnez pas, ça pue, pue le coup d'état. Moderniser, pourquoi tu me parles mal? Je respecte les pygmées, donc respecte les Maasai. Je respecte ton terrier, respecte mes terres. Je respecte les insectes, donc respecte les mammifères. Je te l'explique encore, moi devoir définir. Toi pas comprendre, va parler ou plutôt réfléchir. Le pauvre il faut l'aider, son pote il faut l'aider. Donc déléguer au délégué, qui déléguera au délégué. Imbécile tel, même si tel, trop risqué d'être écouté. Mais ma telle, telle ou telle heure, c'est un euphémisme. Oui je t'idéalise, la culture de la bêtise. De ça oui je suis raciste. Humano. Ça fait 4 fois que ton hélico passe, tout le village a les boules. Passez, passez, mais faites gaffe, ha, si un jour il s'écroule. Y'a pas de gang ou de police, non ce n'est pas la zone ici. Les jaguars ne roulent pas, chez moi c'est l'Amazonie. Où c'était pour ce qu'il en reste, mais garde les tes arbustes. Touche encore un poil à ma forêt, ton pénis j'en ferai des bûches. Toi et toutes tes perruches, t'es Christophe Columbus. Trop tard pour les excuses, au nom du déluge. 3G, 4G ou déchets, oubliez. J'ai 8, j'ai 20 ou j'ai chié et j'ai bien caché. Vous décidez de ça à notre insu, moi aussi j'aurais aimé être entendu. Donc arrêtez de suite, vous êtes stupides ou quoi? Les études ne donnent aucune science infuse.